Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc de Xavier Porto et Thomas Duranto, est un récit historique illustré consacré au destin de ce jeune mousse vendéen. Après le naufrage du Saint-Paul en 1858, Narcisse Pelletier est abandonné sur la péninsule du Cap York, au nord de l'Australie. Recueilli par un groupe aborigène Wantala, il vit parmi ses membres durant 17 ans avant son enlèvement par un navire britannique en 1875 et son retour en France. Le volume reprend intégralement le témoignage recueilli au XIXe siècle par le docteur Constant de Merlan, tout en le confrontant à des archives et à une iconographie abondante. Lettres, articles de presse, cartes, photographies, gravures et dessins ne servent donc pas seulement de décor. Ils permettent de situer le récit dans les cadres maritimes, coloniaux et sociaux de son époque. Le livre vise ainsi moins une aventure exotique qu'une compréhension documentée de la traversée de deux mondes et de ses conséquences humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un témoignage du XIXe siècle replacé dans son contexte documentaire. Le point de départ du livre est le récit publié par Constant de Merlan en 1876, après que ce médecin eut recueilli la parole de Narcisse Pelletier. Cette source est précieuse, car elle transmet le parcours du marin et des observations sur la communauté qui avait accueilli le jeune homme. Elle porte néanmoins les marques de son époque. La parole de Pelletier a été rapportée, organisée et publiée dans une France coloniale où les catégories employées pour désigner les peuples autochtones étaient fortement hiérarchisées. Le titre historique du sauvage blanc doit donc être lu comme un objet critique, non comme une désignation neutre. Porto et Duranto donnent au texte ancien une profondeur que ne posséderait pas une simple réédition. Les documents associés permettent de comparer les temporalités, les lieux et les représentations. Les lettres inédites, les extraits de journaux français, britanniques ou australiens, les cartes et les images montrent aussi comment une histoire individuelle devient une affaire publique. Cette méthode ne prétend pas effacer les limites des archives. Elle aide plutôt le lecteur à distinguer le témoignage, son traitement éditorial ancien et les interprétations ultérieures. Le livre acquiert ainsi une double fonction, transmettre une source rare et apprendre à la lire avec prudence. Sa valeur tient précisément à cette articulation entre récits accessibles, mémoire maritime et examen des médiations qui façonnent toute histoire vécue. Deuxièmement, du naufrage à une intégration durable au sein des Wantalas, le livre rappelle que le séjour de Narcisse Pelletier en Australie ne se réduit pas à une survie solitaire, selon le modèle imaginaire de Robinson. Après le naufrage du Saint-Paul et la fuite d'une partie de son équipage en chaloupe, le jeune mousse, blessé et épuisé, est laissé sur les côtes du Cap York. Son existence dépend alors de son accueil par un groupe aborigène désigné dans les sources comme les Wantalas. Cette donnée change le sens du récit. Pelletier survit parce qu'il entre dans un réseau de relations, de pratiques et de savoirs qui lui sont d'abord étrangers. Au fil de 17 années, il apprend une langue, des usages, des activités de subsistance et une place sociale au sein du groupe. Les informations conservées sur la pêche, la chasse, les chants, les danses, les croyances et les rites funéraires donnent au témoignage un intérêt ethnographique, tout en imposant de ne pas considérer une communauté vivante comme un simple décor d'aventure. Le livre met utilement en évidence le caractère collectif de cette adoption. La transformation de Pelletier ne relève ni de la disparition de son identité européenne, ni d'une fable sur un retour à la nature. Elle résulte d'une adaptation concrète et prolongée à un autre ordre familial, linguistique et culturel. Cette perspective déplace le regard les savoirs autochtones, apparaissent comme des conditions réelles de protection, de transmission et d'appartenance. Troisièmement, la double acculturation et la violence du retour en Europe. La partie la plus forte du parcours de Narcisse Pelletier réside peut-être dans le fait que son retour en Europe ne constitue pas une fin réparatrice. Lorsqu'un navire britannique le récupère en 1875, la séparation avec sa famille adoptive est imposée. Il a alors vécu plus longtemps parmi les Wantaalas que dans la France de son enfance et a largement perdu la pratique du français, son apparence. Notamment ses scarifications et ses ornements corporels nourrit la curiosité et les préjugés de contemporains qui lisent son histoire à travers le fantasme du sauvage. Le livre permet de comprendre que la réadaptation est une seconde rupture, il faut retrouver une langue, des codes sociaux et une famille, tout en portant l'absence de ceux dont il a partagé la vie en Australie. Cette situation éclaire la notion de double acculturation. Pelletier ne passe pas simplement de la civilisation à la sauvagerie, puis inversement. Son identité est façonnée par des appartenances successives qui ne peuvent être ramenées à une opposition simple entre Europe et monde aborigène. Son refus de se laisser exhiber comme curiosité confirme que le retour public peut être aussi une dépossession. En suivant cette tension, le livre évite de faire de Pelletier un héros pittoresque. Il invite à considérer les difficultés durables liées au déplacement forcé, à la traduction de soi et au regard porté par une société sur une personne devenue culturellement autre. Quatrièmement, les images et les archives comme instruments de lecture historique, la forme éditoriale distingue nettement cet ouvrage des récits biographiques plus linéaires. Les illustrations originales de Thomas Duranteau, les photographies, gravures, reproductions de presse, cartes et documents d'archives organisent une lecture à plusieurs niveaux. Ils rendent visibles les routes maritimes, les distances entre la Vendée, la Nouvelle-Guinée et le Cap-York, ainsi que les formes concrètes par lesquelles le destin de Pelletier fut raconté au XIXe siècle. Cette richesse visuelle a une fonction critique. Une photographie ou une gravure ne livre jamais une vérité immédiate, elle dépend de son auteur, de sa date, de son usage et du regard social qui la produit. En les plaçant au contact du récit, le livre rend perceptible l'écart entre une expérience vécue et les images élaborées autour de cette expérience. Les dessins contemporains ne cherchent pas à combler abusivement les silences de la documentation. Ils proposent une médiation sensible, tandis que les pièces historiques ancrent le lecteur dans des traces vérifiables. Cette composition transforme le volume en livre de consultation autant qu'en récit suivi. On peut avancer chronologiquement dans la vie de Pelletier, puis revenir aux cartes ou aux archives afin de mieux saisir un épisode. Le procédé est particulièrement adapté à un sujet dont les sources sont dispersées entre témoignages oraux, presse, mémoire familiale et documents maritimes. Il favorise une lecture active, attentive aux conditions de fabrication du savoir historique. En dernier lieu, une critique implicite des imaginaires coloniaux et de leur prolongement, en documentant la réception de Narcisse Pelletier. Le livre met au jour les imaginaires coloniaux qui structuraient le regard européen. Son surnom historique condense une contradiction. Un Français devenu familier de pratiques aborigènes était perçu comme une anomalie, voire comme quelqu'un dont il fallait mesurer ou exposer la différence. Cette grille de lecture rendait difficile la reconnaissance de son attachement à sa famille australienne et de la valeur des connaissances acquises auprès de celle-ci. Le livre ne se limite pas à dénoncer rétrospectivement ses préjugés. Il montre pourquoi ils empêchent de comprendre l'expérience réelle de Pelletier. Employer des catégories opposant le civilisé au sauvage réduit une relation d'accueil, de parenté et de transmission à une histoire de chute ou de récupération. Le contexte colonial compte également, pour comprendre la circulation des navires, des journaux et des récits entre l'Europe et l'Australie. L'histoire personnelle de Pelletier s'inscrit dans un monde d'expansion maritime, où les populations autochtones sont souvent observées sans être entendues selon leurs propres termes. Pour un lecteur actuel, cette dimension donne au livre une portée plus large que celle du fait divers historique. Elle conduit à interroger les conditions de accueil. Les récits produits sur les identités mixtes et la persistance de représentations simplificatrices face au parcours interculturel. Sans transformer Pelletier en symbole abstrait, le livre relie ainsi son destin aux enjeux de reconnaissance et d'écoute entre cultures. En conclusion, Narcisse Pelletier. La vraie histoire du sauvage blanc conviendra aux lecteurs de récits maritimes, aux amateurs de biographies historiques et aux personnes intéressées par les relations entre Européens et peuples autochtones au XIXe siècle. Il peut également intéresser les enseignants, médiateurs culturels et lecteurs qui cherchent un exemple concret pour réfléchir aux effets humains de la colonisation, de la migration forcée et du retour dans une société devenue étrangère. Son principal bénéfice intellectuel est de faire abandonner une lecture trop simple du naufragé sauvé de la sauvagerie. Narcisse Pelletier a été accueilli, formé et intégré dans une communauté, puis brutalement séparé de celle-ci. Comprendre cette réalité rend son histoire plus complexe et plus juste. Le livre se distingue des biographies d'aventure ou des adaptations romanesques par son dispositif documentaire. Au lieu de privilégier uniquement le suspense du naufrage et de la survie, il conserve le texte ancien de Merlan tout en l'entourant de sources, de repères historiques et de créations visuelles. Cette présentation permet à la fois de suivre un destin remarquable et de percevoir les limites des récits disponibles. Le format de beau livre favorise une lecture lente, parfois moins immédiate qu'un roman contemporain, mais plus propice à la comparaison des documents et à la réflexion. Pour qui accepte ce rythme, il offre une approche solide, visuelle et nuancée de la vie de Pelletier, ainsi que des représentations coloniales qui ont durablement encadré sa mémoire. Si vous souhaitez soutenir Xavier Porto, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.